Oblique. 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 L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bienvenue, chers auditrices, auditeurs. Alors, Oblique continue pour le moment. Ben oui, à explorer le cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors, cette semaine est placée alors, sous le signe du Liban, de la Corée, du documentaire cinéphilique et puis bien sûr de la musique. Bonjour Yann, Victor, Justine et Raja.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour Manu.
Alors toi, Raja, tu vas du côté du Liban.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cinéma assez oblique, je dirais, libanais. Donc, hâte de vous faire partager ça.
Et toi, Victor, quelle interview nous as-tu dégoté ?
Bien, c'est Jean-Baptiste Toré qui était présent donc, au Cinéma Utopia la semaine dernière. Et donc, ce sera un extrait de cette rencontre.
Yann ?
Alors, l'audio oblique, cette fois-ci, c'est sur le générique du film de Sam Peckinpah, Guet-apens.
Et ben, on te retrouve, là, Justine, tout de suite, pour la revue de presse, comme d'habitude.
Exactement.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same, and they made him pay the price.
Si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, sortez vos agendas, je vous ai fait une petite sélection. On commence le vendredi 4 février avec un événement à Marseille. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est l'occasion. Le cinéma Les Variétés de Marseille projettera le film Le Venin de la Peur de Lucio Fulci, qui sera présenté par Hélène Catté et Bruno Forzani. Si ces deux noms vous disent quelque chose, c'est normal. Victor vous en a parlé lors de la première émission Oblique. Ce film sera projeté dans le cadre du festival Ricole, qui aura lieu du 2 au 6 février et qui sera centré autour du giallo. Le lundi 7 février à 20h, c'est le cinéma Diagonale qui nous proposera une soirée ciné-rencontre lors de l'avant-première du film Les Meilleurs et qui sera suivi d'un débat avec Marion Dessaigne-Ravel, la réalisatrice, et Esther Bernet-Roland, actrice. Mardi 8 février à 20h, c'est au cinéma Utopia que L'Acide lancera son cycle Acid Pop, l'université populaire du cinéma, avec la projection du film Maudit de Emmanuel Parot. Alors Victor, est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que c'est l'acid pop ?
Oui, j'avais envie de dire un petit mot sur l'acid pop parce que c'est un cycle que je trouve vraiment très excitant. En fait, tous les mois, il y aura donc le réalisateur du film. Donc l'acid, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Donc à chaque film, il y aura le réalisateur et un autre réalisateur, donc partenaire de l'acid pour enrichir le débat. L'acid pop, ça se veut plus qu'une rencontre après la projection où on échange très brièvement des questions. Il y a un gros travail en amont. Pour présenter les films, par exemple, les réalisateurs viennent généralement avec des extraits des films qui les ont influencés, qui sont diffusés. Il y a vraiment une volonté de leçon de cinéma. Et pour cette première, donc, du coup, le film Maudit, en présence du réalisateur Emmanuel Parot et donc de l'autre réalisatrice Daisy Lamotte, donc c'est un film complètement oblique, hein, dans lequel il y a des spectres, des meurtres, de l'alcool et tout un tas de séquences qui transpirent comme un long cauchemar de gueule de bois, donc venez nombreux.
Ça a l'air très inspirant. On enchaîne le mercredi 9 février, donc à l'université Paul Valéry en salle Jean Moulin. Ce sera le premier jour du Festival international du film d'éducation. Ce festival sera organisé par l'association La Case, se déroulera sur 2 jours et comptera au total 4 séances. Pour le programme détaillé, je vous invite à consulter la page Facebook de l'événement. Alors jeudi 10 février, il faudra faire un choix. Il y aura une soirée au bar Le Meltdown avec à 20h30 une présentation du festival Paul va au cinéma qui aura lieu du 14 au 18 février, suivi à 21h d'un blind test spécial série et cinéma, ou sinon le rendez-vous hebdomadaire du ciné-club Jean Vigo qui nous proposera lui à 20h la projection du film La Terre éphémère de Georges Ovachvili. Un film envoûtant et fascinant qui rend hommage à la nature qu'il ne se lasse pas de nous faire contempler dans un silence presque imperturbable. Et pour finir, vendredi 11 février, il y aura à 20h45 au cinéma Le Sémaphore de Nîmes la projection du film Un jour un chat de Wojtek Jasny. Un film singulier des années 60 avec notamment un chat pourvu de lunettes qui a un étrange pouvoir révélateur sur les vertus et les vices des humains. La séance sera présentée par Lionel Ituerald de l'éditeur et distributeur Malavida. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.
Merci Justine. Alors tout de suite, introduction, le nouveau film de Hong Sang-soo, portrait d'un jeune homme qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Introduction, le nouveau film de Hong Sang-soo avant le prochain, In Front of Your Face, hein, dont la sortie est prévue en cours d'année et qui, paraît-il, flirte avec le thriller. Atteint une sorte de point de non-retour en matière d'épure, de soustraction assumée, au risque de vider son cinéma de toute substance. Ou, sans aller jusque-là, de tout ce qui paraît inutile au cinéaste. Alors un exercice, hein, presque de style, périlleux, qui déçoit dans un premier temps. Une fois visionné, le film, si fragile, presque évanescent, s'oublie, ne laissant nulle empreinte, ne s'inscrivant pas dans la durée. Et puis avec le temps, des images reviennent, des sensations aussi, des plans et des dialogues poétiques, sans qu'on arrive réellement à se rappeler quelle était la trame de l'histoire. Alors la courte durée, hein, d'une heure six, participe aussi à ce sentiment d'un film inachevé, hein, une sorte de work in progress, réalisé sous la forme d'un haïku, d'une succession d'haïkus. Car au fond, ben, il n'y a pas vraiment de scénario, mais un empilement un peu de scénettes à l'étrange ambiguïté, une équivocité laissant planer un doute sur la véracité d'un récit à la lisière de la rêverie. Les précédents Hong Sang-soo, hein, Hotel by the River et La femme qui s'est enfuie, allaient déjà assez loin dans le minimalisme au point de paraître mineur, ce qui n'était pas forcément le cas. Pour la première fois, avec Grèce peut-être, on peut considérer le 25e film du Coréen quand même, hein, comme une forme de parenthèse où, si l'on s'en tient au titre, une introduction à un long métrage que le spectateur imagine comme la promesse d'un cadeau à venir. Alors, introduction raconte tout de même quelque chose, hein, inscrit dans la banalité du quotidien. Un jeune homme, Yeong-ho, indécis dans ses choix, cherche sa place entre les souhaits et attentes de ses parents, ses désirs artistiques et sa relation avec sa petite amie, partie étudier à Berlin. Alors plus que jamais, hein, Hong Sang-soo maîtrise l'art de l'ellipse à travers ses personnages qui discutent autour d'un verre ou qui fument des cigarettes. Les conversations paraissent être prises en cours de route sans souci de cohérence et de progression narrative, comme des instants purement impressionnistes. Alors de même, l'apparition de la neige qui tombe sans explication paraît absurde, comme dans un songe. Alors cette chronique d'un adolescent un peu passif, où le choc des générations promis n'a pas vraiment lieu, ou alors en sourdine, maintient aussi l'attention grâce à la qualité de la mise en scène, la science du cadre et les très belles images en noir et blanc. La qualité d'écriture du film, hein, souvent à double voire triple fond, se construit avec le temps bien après la projection. Les personnages continuent à nous hanter et certains événements finissent par prendre un sens différent selon la temporalité que le spectateur lui attribue. En effet, la séquence notamment sur la plage, presque à l'eau de rose, rêve onirique ou épilogue futuriste, jette un drôle de trouble pour conclure ce petit film anecdotique mais charmant. Alors, introduction s'adresse toutefois aux inconditionnels du cinéaste et surtout à ceux qui connaissent bien son univers. Pour les néophytes, pas sûr qu'il s'agisse de la meilleure entrée. Trop d'ellipses renvoyant aux œuvres antérieures brouille un peu la perception. Mais bon, je le conseille quand même. Le film donc passe au Diagonale février, donc à partir du 2 février. No one knew better than McCain that they get him all the same and they made him pay the price. Ex-critique de cinéma, des cahiers du cinéma à Charlie Hebdo, cofondateur de la revue Simulacre, Jean-Baptiste Torret nous revient donc avec un nouveau film après We Blew It et son portrait de Dario Argento, avec donc Michael Cimino, Un mirage américain. Il est donc venu présenter le film à Utopia le 21 janvier. l'occasion de capter quelques-uns de ses propos passionnants, n'est-ce pas Victor ?
Oui, la rencontre avait lieu donc le 21 janvier et c'était donc la troisième venue de Jean-Baptiste Torré au cinéma et c'est toujours un moment assez unique. Donc cette fois-ci, il nous parlait de Michael Cimino, pour replacer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un cinéaste emblématique du cinéma américain des années, plutôt fin des années 70, particulièrement connu pour son second long-métrage, Voyage au bout de l'enfer, tourné en 1978, et qui raconte donc l'histoire de trois ouvriers d'une ville imaginaire, d'ailleurs, Clairton, une petite ville industrielle de Pennsylvanie. Donc ces trois ouvriers vont se retrouver engagés dans la guerre du Vietnam, et donc on va voir les conséquences de tout cela. C'est un film de prestige qui remportera 5 Oscars et lancera la carrière de Cimino en grande pompe, avant que l'intransigeance artistique de ce dernier ne finisse par user les studios et peut-être aussi un petit peu le public, avec son film suivant, donc Les Portes du Paradis. Cette histoire est assez connue des cinéphiles et c'est pas du tout celle que Jean-Baptiste Torré était venu nous raconter, mais c'était juste pour replacer un petit peu de contexte. Torré, lui, dans son film, il replace un petit peu ces deux portraits. D'un côté, évidemment, Cimino, et de l'autre côté, plus inattendu, les habitants de la ville de Mingo Junction, donc là où, 43 ans plus tôt, Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep et bien d'autres venaient donc tourner Voyage au bout de l'enfer. Voilà, extrait donc de cette rencontre à Utopia.
Michael Cimino, un mirage américain. En fait, vous dire deux, trois mots sur la façon dont j'en suis arrivé un jour à faire ce que vous allez voir là. Et en fait, l'histoire, elle est toute simple, mais elle commence il y a à peu près une dizaine d'années, à un moment où je n'ai pas du tout ni l'idée ni l'envie de faire un film sur Michael Cimino. C'est un moment où je vais ponctuellement travailler pour les cahiers du cinéma qui viennent un peu de changer de formule et qui se demandent, vous savez, quand une nouvelle équipe arrive dans une revue comme ça, il y a un moment où toutes les fenêtres s'ouvrent, on a envie de savoir ce que d'autres personnes ont envie de faire, des idées, etc. Ça se referme très très vite, mais ça dure 2-3 semaines comme ça. Et donc, ils me demandent qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans les cahiers, etc. Et puis moi, je leur dis qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est dans une revue hebdomadaire américaine qui s'appelle New Yorker, dans lequel il y a ce qu'on appelle des profiles, ce sont des portraits au long cours de 25-30 pages sur des cinéastes, des écrivains, enfin des musiciens, etc. J'aime beaucoup ce format, et donc ça suppose qu'on passe du temps avec les gens, mais c'est vraiment un article de fond, un peu gonzo à l'américaine, quoi. Et ils me disent, bah oui, tiens, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, et qui t'aurait envie de faire, d'aller voir, et donc je leur donne trois noms, dont celui de Michael Cimino. Et eux sont d'accord, le problème c'est qu'à l'époque, on est en 2010, Cimino, en fait, a disparu en fait, des radars. Le truc est vraiment là, c'est qu'aujourd'hui, ça nous semble fou, et surtout qu'en 2012-2013, ensuite, il va revenir un peu sur le devant de la scène, et puis il y a des festivals qui vont se réveiller, etc. Mais en 2010, Cimino, plus personne ne s'y intéresse, ça fait 15 ans qu'il n'a pas tourné, parce que Sunchaser, c'est son dernier film en 95, 15 ans qu'il n'a pas tourné, qu'il ne donne pas de nouvelles. En plus, Cimino est hyper avare en entretien, il a toujours des rapports très conflictuels avec la presse, les critiques ou autres, donc il ne court pas après les entretiens, on ne sait pas où il est. Et moi, à l'époque, je donne, comme ça, j'essaie de savoir un peu comment est-ce que je peux le trouver, le Michael Cimino, parce que Cimino est quand même quelqu'un d'un peu important pour moi, de Voyage au bout de l'enfer, ça fait, j'imagine, comme vous, ça fait partie de ces films qui m'ont un peu structuré, quoi. Il y en a plein d'autres, mais Voyage au bout de l'enfer, voilà, dans ma vie, il y a un avant, un après, si vous voulez. Et donc, personne ne sait où il est, et souvent j'appelle comme ça des gens, des cinéastes, des gens de festival, et souvent j'ai appelé Tavernier, qui m'a souvent aidé pour des choses, et même lui ne savait pas. Je me dis, si Bertrand Tavernier ne sait pas comment contacter Michael Cimino, c'est qu'alors là. Et donc, je pars un peu à l'ancienne, ou de façon comme on fait souvent, enfin, comme je le fais souvent avec les Américains, quand je ne sais pas du tout comment retrouver leurs traces, je passe par les avocats américains. Et donc, il y en a une douzaine comme ça. Et puis je les contacte un par un, puis un jour il y en a un qui me répond et qui me dit, si vous voulez accéder à Michael Cimino, dont je n'ai pas moi de nouvelles depuis longtemps, passez par sa productrice, qui s'appelle Joanne Carelli, qui est la productrice de la plupart de ses films. Et c'est comme ça que je vais rentrer en contact avec elle, et qu'elle va m'appeler pendant des mois régulièrement, elle habite à New York, pour me demander ce que j'ai envie de faire. Et je sens dans les conversations que j'ai avec elle, qu'elle répète à Michael Cimino régulièrement tout ce que je lui dis et ma requête, quoi. Et donc c'est un peu la une sorte de gardienne du temple, si vous voulez. Et puis au bout de 7-8 mois comme ça, passer au téléphone avec elle, et je vais même un jour la voir à New York, moi je suis à Los Angeles pour complètement autre chose, et puis elle m'appelle et elle me dit ce jour-là, voilà, Michael veut bien vous rencontrer. Voilà. Et je lui dis, bah, très bien, et donc je me retrouve dans un restaurant, Et puis elle me dit, ben non, c'est à vous de jouer. Hein. Si Michael n'a pas envie de passer du temps avec vous, si votre projet n'intéresse pas, c'est lui qui va décider. Et donc, je passe du temps avec lui. Ça se passe plutôt très, très bien. Peut-être que je vous en parlerai après, parce que la première heure du dîner est intégralement consacrée à John Ford. Et ça tombe bien, parce que j'aime bien Ford. Mais si je n'avais pas passé cette heure, je n'avais pas survécu à cette heure sur Ford, je dégageais. Et donc, je comprends que ça se passe pas mal. Et puis, à la fin, c'est là qu'il me dit, quand il me raccompagne, il me dit, bon, bah, quand est-ce qu'on se revoit? Donc, je comprends qu'il est d'accord pour passer du temps avec moi. C'est-à-dire, parce que ce type de travail, ça suppose de passer 5-6 jours, voire un peu plus avec un cinéaste, et de faire des entretiens 4-5-6 heures par jour. C'est pas rendez-vous au Ritz, on parle un quart d'heure et on s'en va. Donc, c'est contraignant pour la personne. Et c'est là qu'il me dit, on se revoit, je veux bien passer du temps avec vous quelques jours, etc., etc. Mais on ne va pas le faire à Los Angeles. Et il me dit, on va prendre la route tous les deux, je vais vous conduire dans le Colorado, à un endroit précis, pour aller à la rencontre d'un cow-boy. Et c'est comme ça que ça se fait. Et moi, je rentre à Paris, je me réorganise vite fait. Et puis donc, je prends la route avec lui et on va faire donc, ce voyage aller-retour Californie-Colorado sur 8 ou 9 jours, je ne sais plus. Et donc, moi, pendant ce voyage, j'enregistre tout ce qu'il me dit, Michael Cimino. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai mes dictaphones partout, dans les voitures, dans les diners, dans les stations essence, partout. Dès qu'il ouvre la bouche, même quand il dort, j'enregistre tout, quoi. Et quand je rentre à Paris, j'ai 50 ou 60 heures d'enregistrement audio. À ce moment-là, j'en fais le fameux article pour les cahiers, qui fera d'ailleurs la couve des cahiers à ce moment-là. 2 ans après, je me dis, j'ai une telle matière que je peux quand même faire un livre sur et avec Michael Cimino, ce que je fais. Et le temps passe et arrive... il y a 2 ans à peu près, la proposition d'Arte de faire un documentaire sur Michael Cimino. Et là, alors ça peut sembler, vu de loin, extrêmement simple, en disant « oui, mais c'est facile, bon, Cimino, tu connais ça par cœur, allons-y ». Mais c'est précisément parce qu'on connaît ça par cœur et qu'on a ultra travaillé sur un cinéaste et qu'on a fait un livre sur lui, qu'on n'est pas très motivé pour repartir sur le tournage d'un film. Et surtout que, pour moi, j'avais envie de faire un film et pas un doc Wikipédia où j'avais pas envie de mettre mon livre en image, en réalité. Ça m'intéresse pas beaucoup, ça m'ennuie même à mourir. Donc je me dis, c'est quoi le film? Est-ce qu'il y a un film à faire sur Michael Cimino qui soit pas une sorte de version illustrée du livre que j'ai fait ou des articles que j'ai pu écrire? Et c'est là que ça devient compliqué. Et donc, contrairement à d'autres projets, je mets du temps, pour être tout à fait honnête, à me dire, il est où le film sur Michael Cimino? Même si je connais ça par cœur, le film, je ne parle pas d'un doc télé, hein, je parle, il est où, est-ce qu'il y a un film à faire? Et donc un jour, et je m'arrêterai là, je me pose cette question que peut-être plein de gens parmi vous sont posés, et je me dis, je bout de l'enfer, qui est un film que j'ai vu, je ne sais pas, 30 ou 40 fois, et je me dis, mais tous ces gens qui sont dans cette ville, dans le film de Clairton en Pennsylvanie, tous les gens qui sont aux côtés de De Niro, Walken, qui sont à séquence du mariage, etc., est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont encore suffisamment jeunes pour être 40 ans plus tard toujours vivants? Est-ce qu'ils se souviennent éventuellement du fait qu'il y a eu un tournage de ce film il y a 40 ans? Et surtout, c'est où Clairton en Pennsylvanie? Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de Clairton et que le film n'a pas été tourné en Pennsylvanie. Donc je commence à mener mon enquête et je tombe sur un petit bled qui s'appelle Mingo Junction, dans l'Ohio. Et je comprends que c'est là que ça a été tourné. Bah, toutes les séquences américaines, sauf la chasse, ont été tournées à Mingo Junction. Et là, je prends mon petit téléphone, j'appelle les gens de Mingo Junction. Enfin, je vous passe des détails, c'est pas allô, les gens de Mingo Junction. Mais bon, j'appelle des gens à Mingo Junction. Et là, je me rends compte que la personne sur laquelle je tombe, c'est une des premières que vous allez voir dans le film, il a un t-shirt Top Gun. Il me répond et donc il se souvient, lui, et de ce qui reste de cette communauté-là très très bien du film. Et que pour eux, ça a été un moment très important et qu'ils seraient très contents que je vienne tourner un film. En fait, en rapport avec ça. Voilà. Donc, et là, je me dis, quand j'ai ce rapport avec ces gens de cette communauté, qui est quand même dans un des trous du cul d'Amérique, hein, cet endroit-là, au bord de l'Ohio River, très en haut, comme ça, et je me dis, là, j'ai le film. Je sais exactement ce que j'ai envie de faire.
Merci, Victor. Donc, on va changer de continent pour aller au Liban, en fait, avec Raja.
Merci Manu. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir le premier et seul film du réalisateur libanais Marc Abirached. Produit en 2009, il s'agit d'un long métrage de fiction intitulé El Najda. Son titre international, Help, signifie donc un cri au secours, à l'aide. Objet de polémique dans son pays d'origine en 2009, le film se voit interdit de projection 3 jours avant sa projection officielle. C'est la première fois qu'un permis de film donné est retiré par la suite, malgré les licences octroyées au scénario et à la version finale, tous les deux validés par le bureau de censure. Les autorités demandent à Marc de couper 28 des 87 minutes du film, de flouter certaines scènes et d'obscurcir d'autres, puis de censurer 7 minutes additionnelles. Au bord du burn-out et de la faillite, le réalisateur et ses producteurs laissent tomber et renoncent définitivement à une sortie en salle. Marc Abirachet se remet très très mal de cet échec. Pour les années qui suivront, il ne touche plus à la réalisation et il se réfugie dans la production des publicités télévisuelles. En 2011, il remet les droits du film aux éditeurs et distributeurs Epicentre Film France afin d'émigrer et ouvrir son bar à bière en Serbie. Et finalement, aujourd'hui, il travaille à l'ambassade libanaise à Belgrade. Epicentre Film sort Help en DVD et le film se trouve quelques années plus tard disponible sur la plateforme en ligne Mubi. Le film suit 5 personnages marginaux dans leur quotidien entre la capitale du pays et ses banlieues. Il s'agit surtout de l'histoire d'une amitié qui naît entre un adolescent, SDF, et une jeune prostituée, violentée par un homme d'affaires connu. Leur relation aboutit à une tentative de vengeance qui échoue fatalement, à l'image d'une lutte vaine entre les classes sociales. Malgré un synopsis annonçant un drame social d'un film choral, le traitement de Help ne l'est pas vraiment. Les scènes décousues se succèdent tel un mélange hétéroclite sans jamais tracer de véritable ligne directrice. En conséquence, l'intérêt pour le film se trouve ailleurs que dans son récit, et ce dernier serait d'ailleurs nébuleux pour un spectateur qui n'a pas lu le synopsis en amont. La confusion et le scandale autour du film éclipsent à tort les aspects assez fort intéressants aujourd'hui oubliés du film, qui mériteraient un deuxième détour. L'image, par exemple, est étalonnée par nul autre que Sébastien Leclerc, artiste technicien post-producteur le plus notoire au Liban à l'époque, et son travail présente une esthétique particulièrement envoûtante, à la fois torturée et réconfortante. Les teints verdâtres et bleutés des murs blancs et espaces vides des intérieurs s'opposent aux ambiances chaudes et kitsch sursaturées des extérieurs, dépeignant un deuxième niveau de lecture des personnages et des situations déjà obliquement filmées par une caméra épaule, souvent maladroite et impatiente. En conséquence, les personnages incompris et marginaux assument leur traitement idéalisé et fantasmé. Loin des clichés, mais aussi loin de tout réalisme, ils sont appuyés par un jeu d'acteurs peu naturel, très prononcé, et certaines scènes sont mémorables, comme celle d'une bagarre où l'adolescent se prend une vraie paire de claques et bute contre un mur, puis se fait étrangler en public. La scène de ménage à trois avec un travesti et un micheton joué par nul autre que le réalisateur Amine Dora est aussi particulièrement sidérante. La participation d'Amine Dora avant son film Gadi est assez représentative du même état d'esprit d'une telle production. Ancien élève de l'Académie libanaise des Beaux-Arts, tout comme le réalisateur, ils font partie d'une panoplie d'artistes issus d'un milieu très aisé, voulant parler de situations de personnes démunies et marginaux avec un langage de rue et des situations qui sont clairement à distance de leur vécu. En 2009, Dora, artiste, VJ et animateur primé pour son court-métrage Grayscale, réalise la web-série Shankabout, racontant les déboires des gens de la rue au Liban. Sa série fait un carton, elle est récompensée par les Emmy Awards et le Festival international du film à Genève. Elle est rachetée et diffusée en 2012 sur le site de la télévision Arte, qui a produit une version sous-titrée en français et en allemand. Le dernier, surtout incontournable, de Help, c'est surtout sa BO. L'ensemble hétéroclite et disparate du film est scandé par une BO exceptionnelle signée Ziad Saad, encore un nom de la scène underground libanaise, travaillant sous le pseudo et nom du groupe Pop Will Save Us. Ce dernier a souvent été l'invité de Ziad Naoufal, promoteur et producteur de musique libanaise expérimentale, notamment au sein des émissions radio Décalage et Rupture, dans son label Rupturehead, et au festival Irtijal, le premier festival de musique expérimentale au Liban, fondé par lui-même. Ziad Saad permet avec sa BO de rapprocher la distance scénario-image, les combinant avec un son qui, tout en étant hermétique aux deux, résulte à un mélange homogène qui n'aurait pas été possible en son absence. Ziad Saad de même joue dans le film A Perfect Day, un jour parfait, de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, qui sera probablement notre prochain rendez-vous libanais oblique. Oblique, mais dans un autre sens. Merci beaucoup.
Et puis maintenant, on retourne donc aux États-Unis avec un classique du film de Cass, hein, un guet-apens de Sam Peckinpah, par ailleurs un des cinéastes fétiches de Jean-Baptiste Torret.
Audioblique, guet-apens The Getaway, générique. Thank you. Doc McCoy, interprété par Steve McQueen, est incarcéré dans un pénitencier au Texas. Sa purge est rythmée par les travaux carcéraux, les habituelles scènes de vie dans les locaux de la prison, les sorties toujours sous haute surveillance. La possibilité d'évasion morale, comme le souvenir d'étreinte avec sa femme Carole, interprété par Ally McGraw, ou les visions d'animaux sauvages lors des travaux extérieurs, sont pour le prisonnier l'horizon d'une liberté future, qu'il espère en demandant sa libération conditionnelle. Elle est refusée par un jury peu sensible à l'argument de la bonne conduite. Le bruit des ateliers, des moteurs, des chaînes et turbines, des machines vont continuer d'envahir l'esprit de Doc McCoy, carcan sonore choisi comme le refrain oppressant de ce générique.
Mr. McCoy's good behavior while a prisoner.
Notice is taken.
Thank you, sir. The board met in closed chambers last week. Have you reached a decision regarding Mr. McCoy's request for parole?
Request for parole is denied. The prisoner may reapply after one calendar year.
S'il y a beaucoup à voir dans le générique de Guet-apens, brillante exposition de plus de 5 minutes qui va donner le ton du film, une mise en scène de l'attente et de la montée de tension si caractéristique du cinéma de Sam Peckinpah, illustrant notamment l'opposition dialectique entre l'objectivité froide des lieux filmés et la bouillonnante tension intérieure des personnages, s'il y a donc beaucoup à voir dans cette ouverture qui porte en elle-même tous les thèmes exploités et les enjeux développés dans la suite du film, il y a aussi beaucoup à entendre. Et c'est peut-être même sa proposition sonore, concrète, âpre, radicale, sans aucune musique pour arrondir les angles, qui en souligne le mieux le caractère implacable. Présence harcelante du bruit des machines, cauchemardesque dans le sens où il s'impose même en l'absence des objets qui le causent, bande-son scandée par les autres bruits de la prison, mais aussi par des lectures de notes, de charges et décisions administratives, et par les pas, toujours les pas, de marche ou de course, des prisonniers dans leur activité forcée, encerclés par les invectives des gardiens et les aboiements des chiens. L'évocation sonore se suffit à elle-même pour donner le sentiment d'être cerné sans échappatoire.
Man said I have eight hope, yellow one, cooksy two, eight hope colored. Go down to the garden house, turn to your left, go to the woods. We're going to underbrush, burn it, dig the stumps up out of the ground. Lost field, get them dogs on in close to the trailer.
Pour le reste, un versant moins radical, plus confortable et convivial, il y a aussi de la musique dans Guet-apens. Qualité très pro, plus conventionnelle, elle est signée Quincy Jones.
Merci Yann, donc l'émission se termine, nous n'avons pas le temps de demander un conseil au final, puisque voilà, on a beaucoup parlé, donc je ne vous dirai pas tout le mal que je pense de Scream 5, et ni tout le bien que je pense quand même du dernier Guillermo del Toro, Nightmare Alley, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Et puis, je voudrais vous remercier tous les quatre. Hein, Raja, Yann, Victor et Justine.
Merci,
puis,
allez voir Scream 5.
Anna, Anna Technique, le cinéma Utopia, le cinéma Diagonal, et bien sûr Divergence FM. Voilà, à la semaine prochaine.
Bisous.
Salut.
Au revoir. À la semaine prochaine.
Merci.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.